Bien, bonjour, merci de cette invitation. Je n'ai pas pu être là ce matin et j'étais en fait au 104, un futur en scène, et je ne peux pas résister au plaisir de vous raconter une des utilisations possibles du téléphone mobile qui était présenté sur un stand. C'était un stand où vous étiez invité à prendre une sorte de gros revolver, et à la place du barillet, il y avait une encoche, et dans l'encoche du barillet, vous étiez invité à glisser votre téléphone mobile. Et à ce moment-là, sur l'écran de votre téléphone mobile, quand vous dirigiez le pistolet autour de vous, eh bien, vous voyiez bien entendu ce qu'il y avait autour de vous, c'est-à-dire que votre téléphone mobile fonctionnait en mode caméra. Et l'originalité du système était que tout d'un coup, vous voyiez apparaître un monstre qui était donc en réalité augmenté. Le monstre était surimpressionné sur votre téléphone mobile, apparaissait sur votre téléphone mobile au milieu du paysage au milieu duquel vous étiez, mais que vous voyiez en plus dans votre téléphone mobile. Et là, vous étiez invité à tirer sur le monstre, et si vous tiriez bien, vous arriviez à tuer le monstre, et si vous ne tiriez pas bien, c'est lui qui vous tuait. Donc, une manière d'introduire la réalité augmentée par le biais du téléphone mobile, et vous voyez, d'une manière extrêmement ludique et d'ailleurs assez impressionnante. Alors, je pensais qu'on allait être plus nombreux à cette table, donc je n'avais pas prévu de vous parler bien longtemps, mais je vais faire mon mieux. Et tout d'abord, remercier Benoît de cette invitation, mais faire un peu plus, parce que Benoît, vous l'avez entendu, vous a parlé de pratique, de l'importance de la pratique, et je dois à Benoît d'avoir été introduit à la pratique du téléphone mobile comme outil caméra. Alors, avant de découvrir la pratique du téléphone mobile comme outil caméra, j'avais été introduit à la pratique de l'appareil photographique comme outil prolongeant la main par un photographe, Bernard Cossu, et j'ai trouvé dans l'utilisation du téléphone mobile par Benoît un prolongement tout à fait, pas naturel, parce qu'il est très culturel, mais un prolongement tout à fait évident de la manière dont j'avais appris à utiliser mon appareil photographique à l'époque où je pouvais m'entraîner à la photo avec Bernard Plossu. C'est-à-dire, Bernard vantait la qualité de l'appareil photo comme une sorte de stylo qu'on tient dans la main, avant déjà l'invention du téléphone en plastique, avant l'invention de l'appareil photographique plastique, et bien évidemment avant l'invention du téléphone mobile utilisé comme appareil photo. Et là, avec Benoît, j'ai trouvé la même liberté pour utiliser cet outil qui prolonge la main comme une manière de fabriquer des images avec la main et justement pas forcément avec l'œil et encore moins avec la tête. Alors, j'avais prévu de vous dire d'abord quelques mots du bouleversement en cours actuellement, cet extraordinaire passage où nous sommes d'une culture du livre à une culture des écrans, et puis j'ai prévu ensuite de vous dire quelques mots de la manière dont le téléphone mobile trouve sa place dans cette nouvelle culture des écrans. Donc d'abord, une culture du livre, culture des écrans. Alors quand je parle de la culture du livre et de la culture des écrans, je ne fais pas référence à des supports. Je ne fais pas référence au fait que la culture du livre, on la trouverait quand on ouvre un livre, la culture des écrans, quand on appuie sur un bouton pour allumer son écran. La culture du livre, elle se caractérise par un certain nombre de choses que l'être humain avait dans la tête avant d'inventer le livre et qu'il a trouvé le moyen de prendre en relais en inventant les livres. Mais ces choses préexistaient à l'invention du livre, sinon l'être humain n'aurait pas inventé le livre. Et de la même manière, l'être humain a inventé les écrans parce qu'il y a un certain nombre de choses qui préexistaient dans sa tête, qui n'étaient pas vraiment pris en relais par la culture du livre, et donc l'être humain a inventé les écrans pour prendre en relais ses capacités particulières, dont je vais vous dire quelques mots maintenant. Ce qui veut dire que après l'invention des premiers écrans, après l'invention du cinéma, après l'invention de la télévision, de la photographie, des écrans qui La photographie, c'est l'image fixe. Mais après l'invention du cinéma puis de la télévision, un grand nombre de spectacles cinématographiques et télévisuels ont continué à être construits selon les repères de la culture du livre. Et inversement, avant l'apparition des téléphones mobiles, avant l'apparition du numérique, il y avait déjà des livres et notamment des poèmes qui étaient construits d'une manière qu'on pourrait désigner aujourd'hui comme relevant de la culture des écrans. Alors qu'est-ce que c'est cette culture du livre, cette culture des écrans? C'est de manière différente et parallèle d'envisager le monde, soi et les autres. Eh bien d'abord, ce qui les caractérise, c'est le fait que la culture du livre est une culture de l'un, alors que la culture des écrans est une culture du multiple. C'est assez évident, quand on lit un livre, on est devant un seul livre, ouvert à une seule page, c'est difficile d'ouvrir plusieurs pages en même temps, et avec un livre papier traditionnel, il y a deux pages. Voilà. Mais alors que dans la culture des écrans, on a affaire à plusieurs écrans. Alors dans la culture du livre, il y a également un seul lecteur à la fois. C'est rare qu'il y ait 4, 5, 10 personnes, 100 personnes réunies autour de ce livre. Alors c'est pour admirer un livre rare, hein, c'est pas pour le lire. Au contraire, la culture des écrans se caractérise par le fait qu'il y a plusieurs spectateurs. Donc culture du livre, un livre, un spectateur et en général un créateur. Quand on achète un livre, c'est très souvent pour trouver la pensée d'une personne qu'on admire, dont on est curieux. Les ouvrages collectifs se vendent mal, comme vous savez sans doute. Quand on achète un livre, on a envie de trouver un auteur. Dans la culture du livre, c'est une culture de l'un. Un livre ouvert à une seule page, un lecteur, un auteur. Culture des écrans, c'est tout le contraire, hein, plusieurs écrans ouverts en même temps. Même pour ceux qui ne font qu'à regarder la télévision, il n'y en a sans doute pas beaucoup parmi vous, mais enfin ça vaut la peine d'être dit, le soir des résultats de l'élection présidentielle, il suffisait de regarder TF1 ou France 2 pour voir plusieurs écrans sur son écran, il y en a au moins trois. Hein. La place de la Bastille, en général, une interview de personnalité aux réunions autour d'une table et quelques politiques de premier plan interviewées en individuel dans un angle de votre téléviseur. Donc, la culture des écrans, c'est une culture de multiples, plusieurs écrans, plusieurs spectateurs réunis devant, hein, très souvent, et même quand on est tout seul dans son écran, on a quand même le sentiment de le regarder avec d'autres. Pas avec d'autres qui sont là physiquement près de nous, mais avec d'autres qui regardent ailleurs. Vous pouvez regarder la Coupe du Monde de football tout seul dans votre téléviseur, vous n'aurez quand même pas l'impression d'être tout seul. Vous avez l'impression d'être avec les milliers, les millions de gens qui regardent le même match en même temps que vous. Culture du livre, ça ne fait jamais ça. Donc plusieurs écrans, ouverts en même temps, un spectateur qui ne se sent jamais seul, mais qui se sent toujours en lien avec d'autres, et en règle générale, plusieurs créateurs, hein, puisque... vous savez, aujourd'hui, tous les débats qu'il y a autour de la création, autour de la désignation d'un créateur, il y a de plus en plus de créateurs collectifs. Alors, ça existait avant, mais c'était caché. Je vous donne un exemple, moi je connais bien, c'est les aventures de Tintin. Tout le monde pense que les aventures de Tintin, c'est Hergé qui les a pensées dans sa tête, qui les a fabriquées avec sa petite main, qui les a coloriées avec ses petits pinceaux. Non, pas du tout. Les aventures de Tintin, c'est une création collective, hein, on le sait aujourd'hui, et beaucoup de choses qui ont fait la gloire de Hergé, en fait, étaient inventées par ses collaborateurs. Alors aujourd'hui, en revanche, on en a conscience, et vous savez sans doute que Frédéric Mitran a créé un prix, qui était gouvernement, il a créé un prix du jeu vidéo. Je faisais partie du jury, on a eu à récompenser une œuvre et un créateur, on a récompensé une œuvre, mais on n'a pas récompensé un créateur, on a récompensé un collectif de création. Et d'ailleurs, ça nous a posé un problème par rapport à un problème politique. On s'est dit, on ne peut pas mettre le ministre en embarras en montrant notre choix, en affichant le fait que pour nous, la création est collective et qu'elle n'est pas individuelle. Le ministre nous a dit, soyez tranquille, vous n'engagez en rien la politique du gouvernement sur la question des droits d'auteur, du collectif et de l'individuel. Donc on a remis ce prix quand même à un collectif, ce qui était une nouveauté. Hein. Non pas parce que les jeux vidéo seraient faits à plusieurs alors que la BD serait faite par un seul, mais parce que c'était une manière de reconnaître que la création très souvent est collective. Elle est collective depuis qu'on utilise des écrans. Vous savez qu'à la Renaissance, la création des grands tableaux était collective, au XIXe siècle aussi, il y avait un maître d'œuvre, mais il y avait quand même beaucoup de création qui s'imbriquaient les unes dans les autres pour donner le résultat final. Donc culture de l'un du côté du livre, culture du multiple des écrans, là on verra tout à l'heure qu'est-ce que ça a comme conséquence du côté du téléphone mobile. Deuxième grande série de bouleversements, le mode de pensée qui est mobilisé dans les deux cas n'est pas le même. C'est-à-dire, quand on lit un livre, on est dans un mode de pensée linéaire, on est dans un mode de pensée temporel. D'ailleurs, vous ouvrez un livre papier, je veux dire, eh bien, devant vous, vous avez une page, deux, toujours symétrique, mais à gauche, vous avez toutes les pages que vous avez déjà lues, à droite, vous avez toutes les pages que vous n'avez pas encore lues. Et moi, j'aime bien les livres sur papier un peu fort, parce qu'on voit bien ce qu'on a déjà lu, ce qu'on a encore à lire. J'ai horreur de la Pléiade, parce que dans la Pléiade, on lit, on tourne, on lit, on tourne, on lit, on tourne, et on a l'impression qu'on n'a toujours pas commencé à avancer. Donc c'est vraiment très déprimant. Moi, j'aime bien visualiser, quand je lis un livre, ce que j'ai déjà lu, hein, je vois le nombre de pages et ce que j'ai encore à lire. Alors, je pense d'ailleurs que lire sur une tablette de lecture, c'est pas du tout pareil, parce que justement, là, vous avez un numéro qui indique la page, mais pas cette matérialisation de l'avant, du pendant et de l'après. Donc la culture du livre, c'est une culture de la construction linéaire, de la construction temporelle, l'avant, le pendant et l'après, évidemment dans la relation causale. Vous savez que la littérature est construite autour de deux séries d'organisations, où, quand, comment, pourquoi, mais où est donc Ornica. Vous enlevez où, quand, comment, pourquoi, et vous enlevez mais où est donc Ornica, vous n'avez plus de littérature. Parce que toute la littérature se construit autour de ces deux séries de propositions qui permettent de poser des jalons, des balises temporelles, causales, conditionnelles, etc. La culture des écrans, c'est totalement différent. C'est une culture spécialisée, c'est une culture circulaire, c'est une culture de l'éternelle présence, c'est le système Windows, vous ouvrez une fenêtre et quand vous la fermez, vous n'y pensez plus, vous pensez à autre chose. C'est une culture dans laquelle il n'y a pas de construction temporelle, il n'y a pas de construction narrative, c'est une culture encore une fois, du présent éternel. Alors, ça a des conséquences, évidemment, ça veut dire que dans le recours au livre, ce qui va être favorisé, c'est la mémoire de l'événement, ce qu'on a vu avant, ce qu'on verra après. Dans les écrans, c'est pas trop la mémoire d'événement, c'est beaucoup plus ce qu'on appelle la mémoire de travail, c'est pouvoir prendre des indices, hein, des éléments sur l'écran qu'on voit devant soi pour savoir comment les faire servir à l'objectif qu'on a pu se fixer. Alors, autre conséquence, assez évident, dans une culture du livre, les contraires s'excluent. C'est pour ça qu'une autre construction de la culture du livre, c'est le modèle thèse-antithèse-synthèse. Vous dites blanc, vous dites noir, et vous essayez de faire un mix entre les deux. Dans la culture de l'écran, vous avez autant de thèses que vous voulez, vous avez autant d'antithèses que vous voulez, vous n'aurez jamais de synthèse. Et aujourd'hui, il y a des sites spécialisés dans l'information qui demandent à tous les participants de se ranger dans la case des pour ou de se ranger dans la case des contre. Il n'y a pas une case, oui, mais non. Vous êtes pour ou vous êtes contre. La première fois, et d'ailleurs la seule fois de ma vie où j'y ai participé, j'ai reçu un mail me disant, mais très bien votre contribution, mais est-ce qu'on la met dans les pour ou dans les contre? Ben, j'avais pas bien compris, j'aurais dit, ben, alors si c'est comme ça, effectivement, mettez-moi des deux côtés ou ne me mettez pas. Mais c'est absurde. Voilà. Mais en même temps, si vous voulez, là je vous pointe de façon anecdotique un côté un peu caricatural et pervers de la culture des écrans, mais il faut bien comprendre que ce mode de pensée dans lequel les contraires ne s'excluent pas a aussi beaucoup de qualités. Hein. Ça permet de penser les extrêmes, de penser la diversité, de penser le métissage, et justement pas la thèse, antithèse, synthèse. Leur dernière série de différences entre la culture du livre et la culture des écrans, ben la culture du livre est évidemment une culture qui va favoriser l'identité unique. Alors là, je reprends ma casquette de psychiatre, psychologue, psychanalyste. Dans la culture du livre, chacun a une seule identité. Et ça se comprend puisque cette identité est narrative, hein, et je vous renvoie à tous les travaux de Ricoeur sur la construction d'identité narrative, raconter, se raconter, lire une histoire dans laquelle quelqu'un se raconte, raconte l'histoire d'un héros, et bien tout ça c'est de l'identité narrative, de l'identité unique, chacun n'a qu'une seule identité. Dans la culture des écrans, c'est le monde des identités multiples. Vous avez des avatars, vous avez des pseudos. Voilà, c'est une culture du travestissement, du déguisement, de la juxtaposition des identités. Ça n'est pas du tout pathologique. Hein. La seule pathologie, pour ceux que ça pourrait inquiéter, mais toujours des gens qui disent alors on se dépersonnalise, non, on se dépersonnalise pas. Le seul problème, c'est lorsqu'on cesse d'être le maître de ses identités. Au moment où elles commencent à nous sortir de partout, alors là, ça devient un problème, mais tant qu'on passe de l'une à l'autre, en étant à chaque fois dans celle où on se trouve, au moment où on s'y trouve, pas de problème, c'est une autre manière d'être au monde. D'autant plus que cette identité n'est plus une construction personnelle, elle est une construction du groupe, et d'autant plus que cette identité, elle va aussi varier à travers les écrans par le fait que dans chaque écran, on va pouvoir adopter une identité différente. Voilà, donc ça j'y tiens beaucoup parce que je crois que ça permet bien de comprendre en quoi la culture du livre, la culture des écrans se complètent. Parce qu'aujourd'hui, la grande tentation, c'est de penser que la culture des écrans pourrait prendre en relais tout ce que la culture du livre nous a apporté. Alors, il y a des choses que la culture du livre ne nous a pas apportées. La pensée circulaire, la pensée en réseau, la pensée en réseau, les identités multiples, la mémoire de travail, tout ça, la culture du livre ne nous l'apporte pas. Donc, heureusement qu'on a les écrans qui nous permettent de cultiver tout ça. Mais en même temps, la construction narrative, l'organisation temporelle, la chaîne causale, la culture des écrans ne nous l'apporte pas. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne puisse pas l'introduire dans les écrans, mais on l'introduit de la culture du livre. D'où la nécessité d'introduire les enfants dans la culture du livre, autant que dans la culture des écrans, et je dirais même d'abord dans la culture du livre, et après dans la culture des écrans, enfin c'est une autre question. Voilà, alors le téléphone mobile dans tout ça, parce que quand même, il ne faut pas oublier que c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Le téléphone mobile, je crois qu'il va répondre à une préoccupation très particulière de la culture des images, qui est le désir d'immersion. Le désir d'immersion, là encore, il n'est pas fondamentalement lié aux images. Quand vous lisez un roman qui vous captive, vous êtes dedans. Ça, on n'en a pas douté. Il y a toujours des gens qui ont raté leur station de métro parce qu'ils étaient plongés dans un bon roman, voilà, qui n'ont pas vu passer l'heure et qui ont oublié d'aller chercher leur enfant à la crèche parce qu'ils étaient plongés dans un bon roman. Bon, ça a toujours existé. Mais les écrans ont un pouvoir d'immersion bien plus important que les romans. Et ce pouvoir d'immersion des images, en fait, il va fonctionner de deux manières. La première manière, c'est les écrans qui vont nous proposer des espaces dans lesquels on va avoir envie d'entrer, parce que ce sont des espaces ouverts, comme le monde. Ce sont des espaces en 3D, l'invention de la perspective, c'est déjà du 3D, c'est ces tableaux au musée du Prado à Madrid qui sont au ras du sol, et le carrelage du tableau prolonge exactement le carrelage du sol, et vous avez un bar un peu plus loin, et presque, si vous êtes fatigué, vous vous dites, eh ben, j'irai bien m'y asseoir, pourtant c'est le tableau. Donc l'idée que le monde des images prolonge le monde concret et vous invite à y entrer, c'est aussi vieux que l'invention des images elles-mêmes. Perspective, c'est pas aussi vieux que l'invention des images, mais c'est une nostalgie que l'être humain a toujours eue depuis qu'il fabrique des images, c'est pour ça qu'il a fini par inventer la perspective, le relief, le 3D et ensuite les images numériques. Mais il y a une autre manière d'entrer dans les images, et voilà, on arrive au téléphone mobile, cette autre manière d'entrer dans les images, c'est de se mettre soi-même dans l'image. Et là, bien sûr, ben, vous avez tous à l'esprit hein, l'image des gens qui se photographient eux-mêmes. Aujourd'hui, je dois aller dans 6 mois au Chili et j'ai prévu de faire un voyage à l'île de Pâques. Alors j'ai tapé l'île de Pâques sur Internet. Alors on voit plein de gens qui se photographient comme ça. Mais une manière de dire j'y étais. Ces gens ne sont plus photographiés, c'est-à-dire on voit leurs bras et en fait ils se photographient eux-mêmes. J'y étais. Et donc du coup, c'est une manière de se mettre soi-même dans l'image. En fait, il y a deux manières d'être dans les images aujourd'hui. Soit les grosses machines, les technologies lourdes, la géode, l'écran sphérique, le clone numérique. Mais il y a une manière beaucoup plus simple de se mettre dans les images, c'est le téléphone mobile tenu à bout de bras qui nous permet à volonté de filmer le monde, de se filmer soi-même, voire de se filmer soi-même et de se regarder dans le monde, au milieu du monde dans lequel on s'est filmé. Comme une espèce de poupée gigogne en inclusion successive, moi qui tiens le téléphone, qui me tiens filmé dans un paysage qui est le paysage justement dans lequel je me trouve. Or ça, avant l'invention du téléphone mobile, ce n'était pas possible. Et en plus, elle a même la possibilité d'envoyer cette image en temps réel. Donc vous voyez que le téléphone mobile, ben, c'est la culture du numérique, hein, mais en même temps, on peut introduire dans cette culture du numérique les repères qui sont ceux de la culture du livre, notamment des repères temporels, des repères de causalité, mais ce n'est pas la culture des images, ce n'est pas la culture du numérique. La vraie culture du numérique, c'est la pensée non linéaire, la pensée circulaire, le couper-coller, la juxtaposition des contraires, et là on est dans la vraie culture numérique. Mais vous voyez l'effort qu'il faut faire quand on a grandi dans la culture du livre comme moi, pour arriver à s'affranchir de ses repères, pour bien utiliser l'outil numérique. D'où mes remerciements à Bernard d'abord et à moi ensuite. Et vous voyez aussi que la culture, cette culture du téléphone mobile, eh bien, elle va nous permettre après de jouer extraordinairement avec notre présence au monde, c'est-à-dire nous rendre présents au monde, pas seulement par la présence physique que nous y avons, mais nous rendre présents au monde par le fait que nous pouvons nous inclure dans l'image. Voilà donc quelques repères que j'avais envie de vous donner. J'ai été plus long que prévu parce que Benoît m'a dit, ben voilà, Alain Fécher n'est pas là, donc on a un peu plus de temps. Et si vous avez des questions, ben c'est avec plaisir qu'on rentre un débat là autour.